Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Michel Meige va faire l'appel, il est là.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Madame Geneviève Dariussec. Présent. Hervé Bayard. Bertrand Tortille. Marie-Christine Bourdieu. Charles Daillot. Chantal Davidson, absente, donne pouvoir à Marie-Christine Bourdieu. Monsieur Farid Deba. Madame Hélène D'Artaillon. Madame Catherine Piquet. Monsieur Jean-Paul Gantier. Madame Cathy Dupuy-Ventrepol. Monsieur Gilles Chauvin. Madame Odette Di Lorenzo, absente, donne pouvoir à Madame Anne-Marie Pita Dublanc. Madame Anne-Marie Pita Dublanc. Monsieur Arsène Buchy. Madame Claude Taillé, Monsieur Jean-Marie Badby, Michel Meige, présent. Madame Chantal Couturier, Madame Muriel Cross, Madame Chantal Panchenot, Monsieur Guy Parella, Madame Janine de la Maison, Monsieur Bruno Ruffia, Madame Pascal Horry, Monsieur Thierry Tsoko-Diavert, Madame Stéphanie Chédat.
Absente, elle doit dû donner un pouvoir, non?
Non.
Bon, ben elle est absente. Pas grave.
Monsieur Philippe Hérault. Présent. Madame Marina Vangon. Monsieur Antoine Vignot-Duclé. Nicolas Tachon. Monsieur Renaud Laïtette. Présent. Monsieur Didier Simon, absente, donne pouvoir à Monsieur Renaud Laïtette. Madame Elisabeth Soulignac. Monsieur Renaud Lagrave, absent, donne pouvoir à Madame Elisabeth Soulignac. Monsieur Alain Bachet. Madame Karine Juan, absente, donne pouvoir à Monsieur Alain Bachet. Monsieur Julien Antunes, absent. Madame Céline Pio. Merci.
Bien, merci beaucoup. Bon, ce conseil municipal, trois délibérations. Les plus importantes concernant, bien sûr, ce dont nous avions parlé lors de notre dernier conseil, à savoir du protocole transactionnel avec la Caisse française de financement local, la SFIL et Dexia Crédit Local, de nos emprunts compliqués, notamment surtout l'euro-franc-suisse. Et je vais donner tout de suite la parole, s'il est prêt, à Charles Daillot. Est-ce qu'il est prêt?
Non.
Et Charles Daillot n'est pas prêt. Quel est le problème? Un problème d'informatique. C'est l'orage? Bon, alors pendant que le problème informatique se règle... Peut-être que nous pourrions, si vous l'acceptez, passer à la délibération 3, qui concerne la modification de la délibération relative à l'acquisition de l'ancienne bibliothèque. Hervé Bayard.
Merci, Madame le maire. Donc, en effet, il s'agit d'accepter la cession de l'ancienne bibliothèque, enfin du bâtiment dit l'ancienne bibliothèque, à Monsieur Joseph Martin. Donc cette cession s'opère au prix de 255 600 €. Nous avions déjà pris une délibération le 28 mars 2013 pour procéder à la cession de ce bien. Et donc la société qui était pressentie s'étant retirée, c'est aujourd'hui M. Joseph Martin qui procédera donc à cette acquisition. Sans condition.
Y a-t-il des questions ?
C'est juste une question par rapport à la phrase sur la délibération. Il convient de noter qu'une société est en cours de constitution pour l'acquisition. C'est quoi cette société?
C'est une société dont le gérant est M. Joseph Martin et donc qui constituera cette société pour procéder à l'acquisition de ce bien.
D'accord, mais vous savez dans quel but, ce qu'il va en faire?
Ah oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que le projet est le même que celui pour lequel nous avions délibéré le 28 mars 2013. C'est-à-dire que seront créés 8 logements. Je peux vous donner la typologie, si vous voulez. Donc, 8 logements, nous avons 4 T2, 3 T3 et 1 T4. L'architecte du projet reste le même, c'est Madame Carini Lafont, qui est architecte du patrimoine à Bordeaux. Voilà.
Monsieur Bachet.
J'allais vous faire la même remarque que Monsieur Bayard, même si on a été consulté lors d'une commission ad hoc au niveau de la commission urbanisme. Nous émettrons le même vote que nous avons émis quand il s'agit de vendre ce bien, puisqu'on vous avait fait des remarques en considérant que c'était un bien qui devait être conservé par la collectivité, donc nous voterons contre cette délibération.
Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y en a pas. Donc pour cette délibération, qui est d'avis de voter contre ? Donc vous êtes 6. De s'abstenir, Madame Piau. Et de voter pour, tous les autres. Merci, il est adopté à la majorité. Alors, est-ce que la technique... ben voilà. Charles Daillot, donc, à propos de cette potentielle autorisation de signer ce protocole transactionnel, va nous faire c'est pas facile, mais on va essayer d'expliquer les choses le plus simplement possible pour que tout le monde ait le même niveau d'information.
Merci, Madame le maire. Donc, vous avez dû recevoir dans votre convocation le projet de protocole ainsi qu'une petite note dont vous avez dû prendre connaissance. Et je vous propose de dérouler ensemble quelques écrans et revenir un peu sur en synthèse sur le prêt structuré et les options qui s'ouvrent à nous. Donc, dans la petite note que vous aviez, on va revenir rapidement sur la définition de ce qu'est un emprunt structuré, le nôtre, les éléments du contexte actuel par rapport à notre endettement et ce type de prêt. Je ferai un focus sur la mécanique de notre prêt Euro-France-Suisse et puis on regardera quelles sont les démarches que nous avons entreprises jusqu'à présent et les options possibles pour désensibiliser ce dossier. Donc on passera ensuite à la délibération. Simplement en aparté, vous dire que ce soir, il s'agit donc de délibérer pour autoriser Madame le maire à contractualiser un protocole d'accord avec la SFIL. La SFIL, c'est l'émanation, c'est la structure dans laquelle l'État est majoritaire qui a repris les créances, les dettes d'Exia. Et il s'agit donc de désensibiliser les deux derniers prêts structurés que nous avons dans notre endettement et tout particulièrement le prêt Euro-France-Suisse. Donc vous avez les documents en votre possession. Un petit rappel également, au début de ce deuxième mandat, Madame le maire nous a fixé et m'avait fixé comme mission prioritaire, entre autres, de travailler sur la désensibilisation de notre endettement. Donc c'est si aujourd'hui les choses s'accélèrent, et on verra pourquoi, sachez que nous avons entrepris dès le lendemain de notre réélection ce travail de désensibilisation avec de multiples actions offensives, la poursuite de nos actions en justice, bien sûr, que nous avions entamées en 2013. Le refus de payer le surplus d'intérêt suite à l'événement de la Banque centrale suisse, rappelez-vous, le 15 janvier, et puis des diverses pressions et actions, notamment par le biais de l'adhésion à la PCET, par le soutien que nous avons eu aussi des différents courriers de l'AMF, par aussi une étape qui a été marquée en fin d'année, début d'année, fin d'année dernière, début de cette année, de désensibilisation déjà de 3 prêts structurés. Donc là, les échanges et les tractations avec les différents acteurs de la situation, à savoir la SFIL, notre avocat, le cabinet Seban, notre cabinet conseil indépendant en finances actives, le fonds de soutien. On a eu beaucoup d'activités ces derniers temps et beaucoup de rendez-vous. Et donc, je vous propose, sans plus tarder, de rentrer un peu dans le vif du sujet pour voir quelles sont les options qui s'ouvrent à nous. Alors, un prêt structuré, c'est quoi ? Un prêt structuré, c'est un prêt qui est composé de plusieurs parties, qui varient en fonction des marchés. C'est pas tout à fait comme un prêt classique, mais c'est un prêt classique qui est combiné avec des options d'achat ou de vente d'une action ou d'un titre financier. Et en ce qui nous concerne pour le prêt Euro-France-Suisse, c'est un prêt qui est indexé sur une parité entre l'euro et le franc-suisse. Donc dans le cas présent, plus l'euro est faible face au franc-suisse, on l'a déjà dit, mais il est bon de le répéter, plus ce taux nous est défavorable. Et plus les indemnités de remboursement par anticipation, qu'on appelle les IRA, augmentent. Le contexte fait que le franc suisse aujourd'hui est une valeur, a toujours été historiquement une valeur refuge, et l'est plus encore avec une certaine fragilité et fluctuation de l'euro. Jusqu'au 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse soutenait le cours de l'euro en achetant massivement des euros pour essayer de maintenir cette parité. Elle a décidé au 15 janvier, un peu contre toute attente, de libérer cette parité euro-franc-suisse, qui fait que l'euro a basculé, la valeur de l'euro a basculé à la baisse par rapport au CHF. Le CHF, c'est l'euro-franc-suisse. Et donc, ça nous a fortement pénalisé. On reviendra après sur le prêt franc-suisse. Alors, simplement dans le contexte, Dexia, qui est la banque qui a disparu, bien entendu, hein, mais qui est reprise, les encours sont repris par la SFIL. Dexia avait vendu à l'époque, dans les années 2000-2005, à partir de 2005, a vendu des prêts structurés à plus de 2000 collectivités locales. Vous avez ici quelques-unes des plus représentatives, avec des montants importants. On trouve des intercos, on retrouve des grandes communes, des conseils généraux. À savoir que l'encours aujourd'hui de Mont-de-Marsan sur ce type de prêt est de 4,5 millions. Vous avez également, peut-être plus près de chez nous, quelques-uns de nos voisins qui sont aussi touchés par ce type de prêt structuré. Donc je vous laisse prendre connaissance comme ça de quelques exemples. On est en millions d'euros. Hein. Les collectivités, au premier rang desquelles le Conseil général du Rhône, par exemple, c'est 418 millions d'euros. La Seine-Saint-Denis, qui avait fait parler d'elle, c'est 345 000 euros. Je vais passer assez rapidement, mais vous avez quand même énormément de collectivités qui sont dans cette situation. Alors, pourquoi les collectivités ont eu recours à ce type d'emprunt? Bah, d'abord, pour bénéficier d'un taux plus bas au moment du prêt, en espérant avoir des conditions avantageuses ensuite. Peut-être aussi, et même sûrement... parce que les commerciaux de chez Dexia étaient bien objectivés avec un argumentaire bien rodé en la matière, et puis disposaient d'un catalogue de prêts à l'époque et de financements, tous plus créatifs les uns que les autres, portant des appellations assez rassurantes. Sur des prêts avec des parités liées à l'euro franc suisse ou au dollar, on pouvait avoir des appellations dual fixe, taux fixe, donc qui pouvaient aussi laisser entendre une absence de risque. Hein, j'en prends pour exemple, vous voyez là, ça c'est le taux du prêt qui avait été fait à l'époque, le premier prêt fait avec Dexia, qui s'appelle Dual Euro CHF fixe, hein, et qui est tout sauf fixe, bien entendu. Alors, quel risque représente ce type d'emprunt? C'est un taux alléchant au départ, donc avec un risque de fluctuation ensuite. C'est une indexation sur des formules de calcul quand même assez alambiquées. Et puis c'est une réactivité quand même très forte aux fluctuations du marché, on le voit, puisque un simple événement comme celui du 15 janvier peut faire que ce taux passe de 13 à 22%. Et puis des clauses de sortie prohibitives, on est très loin de ce que vous pouvez connaître à titre particulier quand on finance son appartement. On n'est pas sur des indemnités de remboursement par anticipation qui sont de l'ordre de 3%, mais de parfois beaucoup plus, voire même des fois le double du capital restant dû. Donc voilà pour avoir quelques éléments d'informations généraux sur ce type de financement. Alors pourquoi il est impossible de sortir indemne de ce type de prêt? On n'a pas de communes aujourd'hui qui ont pu en sortir. Bah, tout simplement parce que Dexia, d'une part, n'est pas forcément celui qui a emprunté. Hein, c'est un intermédiaire. Derrière, il y a des banques qui sont adossées à ce type de prêt. Et le marché qui propose des contrats financiers. Hein, pour l'exemple... le prêt euro-franc-suisse de Mont-de-Marsan, derrière, c'est le Crédit Suisse, en fait, qui a prêté à Dexia. Le prêt euro-CHF de Dax, c'est la RBS, c'est la banque écossaise qui a prêté derrière à Dexia. Donc, il y a des refinancements en cascade. Donc, c'est difficile de connaître l'identité des banques contreparties derrière ces contrats de prêt Dexia, et encore moins celles qui percevront les indemnités de remboursement par participation. Le mode de calcul aussi de ces mêmes indemnités reste complexe et assez fluctuant, hein, puisque ce n'est pas un forfait fixe, mais ça fluctue aussi en fonction des différentes parités. Donc voilà les quelques éléments d'information que je voulais vous apporter avant de rentrer vraiment dans le détail de notre prêt à nous. Alors, les prêts indexés, le prêt que nous avons est les prêts indexés sur la parité franc-suisse. Donc on l'a dit, quand la valeur de l'euro baisse par rapport au franc-suisse, c'est le taux de notre prêt et les indemnités de remboursement qui augmentent. Contrairement à l'euro actuellement, donc le franc suisse qui est une valeur refuge attire encore quand même les capitaux, Et donc, vous l'avez vu, le 15 janvier, la Suisse et sa banque centrale avaient décidé donc de ne plus intervenir pour soutenir. Ce qui fait que notre taux est rapidement monté en flèche. Avant le 15, il était déjà haut, puisqu'il était aux alentours de 11-12. Et après le 15, il est rapidement monté aux alentours de 22%. Alors, on peut faire des projections de taux tous les jours, forcément, puisque la parité, elle évolue tous les jours. Il y a un topage de ce taux qui détermine le taux de l'année qui se fera très prochainement. C'est aussi pour ça qu'on est là. Mais à l'époque et le lendemain de cette décision de la Banque suisse, on a même eu des parités euro-franc-suisse où traditionnellement, il fallait plus d'euros pour faire un franc-suisse. Et là, le franc-suisse prenait le dessus et on pouvait très bien se projeter sur des taux à 30-35%. Aujourd'hui, le taux actuel est de 21%, 21,974%, avec un taux de change topé hier, je crois, ou ce matin, à 1,0466. C'est-à-dire qu'il faut 1,0466 euros pour faire un franc suisse. Le capital restant dû de ce prêt est de 4,4 millions. C'est-à-dire que tous les ans, sur cette projection-là, c'est plus d'un million d'intérêts par an sur ce type de produit. Vous avez ici une évolution de la parité euro-franc-suisse qui montre, mais rapidement, que dans les années 2002-2000, avant, dans les années 2000, on était plutôt sur des bases au-delà de 1,5 euros pour un franc-suisse, qui nous permettait d'avoir un taux fixe correct et intéressant. Et puis, il y a une dégradation qui s'opère à partir de 2008, 2010, 2012, et ce pic très bas que vous voyez au 15 janvier 2015 à 0,75, en faisant le calcul sur la formule d'indexation de notre prêt. Si on s'arrête sur la situation du lendemain du 15 janvier, on était sur des bases de 37,88. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, je voudrais vous parler de la SFIL. La SFIL, c'est la structure qui a repris l'encours de Dexia, qui est détenue à 75% par l'État français, à 20% par la Caisse des dépôts et à 5% par la Poste. Donc c'est avec cet organisme, entre autres, que nous sommes en échange quasi permanent en ce moment pour justement voir quelles sont les options. Il y a l'option, on va le voir, de poursuite de l'action judiciaire, et puis il y a l'option SFIL avec le fonds de soutien, on va en parler. Aujourd'hui, cette structure a globalement reçu pratiquement 800 propositions pour un encours de 6 milliards d'euros, et on est sur une base aujourd'hui de 261 opérations de désensibilisation pour un encours de 2 milliards d'euros. Pour avoir échangé avec eux là récemment, ils sont sur un rythme aujourd'hui où il y a 20 à 30 dossiers par semaine de collectivité pour engager justement ce type de désensibilisation. Alors le fonds de soutien qui est adossé à ça, on verra que la SFIL est là pour proposer une solution de sortie par le biais d'un refinancement des crédits déstructurés. Mais bien entendu, pour nous, il faut aussi qu'il y ait ce fonds de soutien. Je vais vous en parler là. Le fonds de soutien, c'est pourquoi ? C'est pour compenser partiellement le coût de sortie des prêts d'Exia en prenant en charge une partie de l'indemnité de remboursement par anticipation. Donc pouvoir essayer de limiter la casse en termes de remboursement par anticipation. Ça, c'était l'essence au départ du fonds de soutien. Quand le timing ? En avril 2015, nous avons déposé un dossier, sans préjuger d'ailleurs de la décision que nous allons prendre aujourd'hui, mais il fallait, dans des délais, je crois qu'on avait pu échanger là-dessus, nous avons par précaution déposé un dossier dans les délais pour pouvoir être demandeur éventuellement de ce fonds de soutien. Donc les choses sont faites en bonne et due forme. En septembre 2015, il y aura, on va dire fin août, je crois qu'aujourd'hui il y avait la première lecture, la promulgation du véhicule législatif qui est la loi NOTRe, dans laquelle sera voté un fonds de soutien qui est augmenté, puisque vous avez dû, en suivant les actualités, voir que ce fonds de soutien de l'État était passé de 1,5 milliard à 3 milliards d'euros, et avec une quotité maximale. On verra que Mont-de-Marsan ne peut pas prétendre à la quotité maximale, c'est vraiment les communes et les collectivités qui sont très très touchées, et les petites communes, avec une quotité de participation maximale de 75%. Donc à l'automne 2015, on aura à conclure véritablement ce protocole une fois que la loi sera votée, mais on est ici pour engager nos décisions. Et on pourra, si nous allions dans cette solution, on pourra en 2016 commencer à percevoir aussi les premiers versements de ce fonds de soutien qui, vous le verrez, est étalé dans le temps. Ce n'est pas un chèque comme ça d'un seul coup, c'est étalé sur 13 ou 14 années. Qui ça concerne ? Ça concerne 5000 collectivités qui ont un prêt structuré, plus de 2000 chez Dexia, 850 sont concernés par le fonds de soutien aujourd'hui et 676 ont déposé une demande dans les collectivités, je parle d'interco, de conseil départemental et de communes. Les 676 demandes représentent aujourd'hui 6,6-6,7 milliards d'euros, c'est 84% du stock de dettes toxiques. Et l'État a doublé son enveloppe, donc je vous le disais, en passant de 1,5 à 3 milliards, sous la pression aussi de la PCET, de l'Association des maires de France, puisqu'il y a quand même une disproportion très très importante entre cette enveloppe à 3 milliards et l'encours réel de ces prêts structurés. Aujourd'hui, l'encours global... alors aujourd'hui, l'encours pour nous, enfin le fonds de soutien auquel on pourrait prétendre est de l'ordre de 4 850 000 à 5 millions d'euros en fonction. On est plutôt sur la base de 50% et non pas 75% de notre indemnité de remboursement par anticipation. Alors sachez que tous ces chiffres-là s'appuient sur des échanges avec le service pilotage du fonds de soutien à Bercy qui nous a envoyé des calculettes, fait des projections. Voilà. On a aussi, on s'est entouré bien entendu des conseils de notre cabinet Finance Active. Aujourd'hui, nous n'avons plus que deux prêts structurés. Alors, il y en a un, l'euro franc-suisse, qui fait un peu parler de lui. Il y en a un second qui est un CMS qui est classé 3E. Alors, dans l'échelle de Gisler qui classe ses prêts structurés, c'est notre prêt euro franc-suisse qui pose le plus de problèmes. Mais l'autre aussi peut un jour être amené à fluctuer. Un petit rappel sur l'encours. On a 38 millions d'encours d'emprunt. Le prêt euro franc-suisse représente à peu près 10-11% de cet endettement. Rappelez-vous aussi, sur le dernier conseil, nous avions parlé du ratio d'endettement. Hein, donc c'est vrai que l'opération que nous faisons, que nous ferions ce jour impacterait forcément ce ratio d'endettement. Nous l'avons calculé à peu près à un alourdissement d'une année. Donc inutile de vous dire que c'est aussi pour ça que nous avions entamé des efforts importants pour contenir cet endettement avec un ratio en baisse, souvenez-vous. C'est la capacité en fait de désendettement qui correspond au nombre d'années nécessaires de notre épargne brute pour apurer notre dette. Donc on pourrait, à isopérimètre, parce que les calculs vont être un peu complexes étant donné qu'il y a changement de compétences, il y a des transferts d'emprunts, etc. Mais si on restait dans le même périmètre, l'impact de cette mesure augmenterait ce ratio de l'ordre d'une année. Donc les actions que nous avions pu entamer, on n'est pas resté donc les bras croisés. Dès 2009, nous avions tenté de renégocier le prêt toxique fait en 2006 en bloquant une partie du taux. En 2012, nous avons fait suivre notre dette par un cabinet Finance Active sur les conseils de la Chambre régionale des comptes. En 2013, nous avons démarré notre assignation en justice de Dexia avec le cabinet Seban qui est assez réputé. Et puis les choses se sont accélérées en 2014-2015, adhésion à la PCET, vous vous en souvenez, on a cantonné sur un compte de provision le surplus des intérêts à partir du moment où on est passé au-delà de 12% quand il y a eu cette décision de la banque. Nous avions donc déposé préalablement à titre préventif un dossier au fonds de soutien, nous avons désensibilisé trois prêts structurés qui certes sont moins exposés mais qui nous permettent d'assainir la structure de notre endettement. Plusieurs rendez-vous, bien entendu, se sont succédés avec la SFIL, avec le fonds de soutien, et puis plusieurs consultations quasi permanentes avec nos conseils, Seban et Finance Active. Aujourd'hui, deux options possibles, et on reviendra sur les éléments que vous avez en main, avec un seul objectif, désensibiliser notre endettement. Première option, statu quo, on va l'appeler comme ça, on poursuit notre action en justice. Deuxième option, on rentre dans le protocole que nous négocions, le protocole transactionnel avec la SFIL, pour capter donc le fonds de soutien et en renonçant bien entendu à l'action en justice, hein, puisque l'un implique l'autre. Sur l'option numéro 1, poursuivre l'action en justice, donc c'est vrai que... Il y a des avantages à cette poursuite. Il peut y avoir des inconvénients également. L'avantage clair, c'est qu'en cas de victoire en justice, nous pourrions au mieux espérer une requalification au taux d'intérêt légal. Les inconvénients, il y en a également. La ville laisserait définitivement passer le train du fonds de soutien. Hein ? On peut déplorer que ce fonds de soutien ne soit pas à la hauteur du problème. Malgré tout, il est là. Et puis, il y a une deadline au-delà de laquelle nous pourrions ne plus y avoir droit. Donc, aucune ville à ce jour n'ayant réellement gagné son procès et encaissé des fonds, l'enjeu est tel que l'État même a sorti une loi sur le TEG, hein, qui était un des motifs possibles pour nous de pouvoir plaider notre cause. Aujourd'hui, on n'a plus ce motif-là. Donc c'est vrai que je vous parlais d'un rythme de 20 à 30 collectivités qui franchissent le pas de rentrer dans ce protocole par semaine. Et c'est vrai que ce mouvement laisse à réfléchir. Nous avons bien entendu consulté nos conseils, notamment Finance Active, qui encore aujourd'hui plaide clairement pour cette solution. Alors, pour l'action en justice, là je vais assez rapidement vous en parler, peut-être on en reparlera après dans nos échanges, mais vous dire que cette action a commencé en 13/03/2013, elle s'étend avec plusieurs étapes, des audiences de mise en état, des renvois, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on a clairement le sentiment et même la certitude que c'est des choses qui s'étalent vraiment dans le temps, qui vont durer et qui peuvent durer, on en reparlera en aparté, qui peuvent durer plusieurs années. Le fonds de soutien, lui, aujourd'hui, s'est limité dans le temps. L'option numéro 2, ce serait de conclure le protocole d'accord transactionnel à la CIVIL. Les avantages, ce serait tirer un trait sur les prêts risqués. C'est définitivement assainir notre structuration d'endettement pour les générations futures. C'est de ne plus être exposé aux fluctuations liées à la parité euro-franc-suisse. Donc, c'est pouvoir disposer d'une échéance annuelle connue, certaine, qui permet aussi de mieux planifier le fonctionnement et le plan de marche budgétaire. C'est bénéficier du fonds de soutien, même si il est un peu décalé par rapport au problème, il est là. C'est économiser en comparant la situation statu quo dans l'hypothèse où nous ne gagnerions pas notre procès, en restant comme ça sur le prêt tel qu'il est à 22% jusqu'à la fin, et en prenant la solution protocole, c'est un delta d'environ 1,5 million, 2 millions d'euros en termes de coût total du crédit en faveur du protocole de refinancement par la CIVIL. Donc c'est aussi faire une petite économie par rapport à ça. C'est désensibiliser également l'autre prêt, en profiter pour définitivement tirer un trait sur ce type de dossier. C'est l'inclure aussi, inclure dans cette négociation un besoin de financement. Vous savez qu'on essaye de contenir notre endettement et de n'emprunter que ce que nous amortissons annuellement. Là, c'est aussi l'occasion est donnée de pouvoir inclure ça là-dedans pour bénéficier d'un taux et inclure notre financement annuel en investissement. Alors, il n'y a pas que des avantages, il y a des inconvénients aussi. L'inconvénient, ça peut être aussi que la ville se prive de l'éventualité de gagner un procès, mais dont l'issue est quand même de plus en plus lointaine et aléatoire. Je pense qu'on aura un échange là-dessus. Et puis, le fonds de soutien, bien que doublé, reste quand même insuffisant. Donc, c'est à prendre ou à laisser aujourd'hui, de la part de l'État, clairement. Mais enfin, on voit que je ne suis pas certain que l'État ait pris vraiment la mesure des encours qui posent problème. Et du nombre de collectivités touchées. L'aide du fonds de soutien, aujourd'hui, c'est pour la commune de Mont-de-Marsan, pratiquement 5 millions d'euros, qui seraient versés en 13 ans. Donc, c'est 381 000 euros par an d'aide. Donc, c'est la totalité de ce que pourrait prétendre aujourd'hui. C'est la simulation que nous avons fait avec le fonds de soutien et son directeur. Il peut y avoir une bonne surprise, mais le delta est d'environ 5% à la hausse. Ça dépendra aussi de certains paramètres. Donc, il est évident que l'euro franc suisse est particulièrement aidé par rapport à ça. Le planning protocole CIVIL, il est clair, c'est conseil municipal le 16. Et puis ensuite, les choses peuvent s'enchaîner assez vite, sachant que nous avons toujours quand même un topage de taux à faire. Le topage de taux, c'est quoi? C'est qu'à un instant T, on va regarder quelle est la parité euro franc suisse. Et c'est aussi en fonction de cela que s'ajusteront les calculs, notamment d'indemnité de remboursement participation. Donc on gardera toujours quand même une possibilité, si c'est au moment du topage, il y avait un événement qui faisait que, de pouvoir faire marche arrière par rapport à ce protocole. Donc voilà ce que je voulais aborder avec vous. Alors par rapport au protocole, vraiment au détail du protocole CIVIL, je vous propose de prendre connaissance de ce que vous avez entre les mains. On pourrait peut-être... Je ne vais pas le lire parce que vous l'avez là, mais je me tiens à votre disposition pour y répondre. C'est le document protocole transactionnel qui règle de façon très contractuelle les modalités de l'intervention de la CIVIL. Globalement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la CIVIL ex Dexia va reprendre là-dedans notre capital restant dû des deux prêts, le prêt CMS un peu moins structuré, un peu moins toxique, on va dire, et le prêt franc-suisse. l'ensemble des indemnités de remboursement par anticipation et les 2 millions d'euros dont nous avons besoin annuellement que nous faisons rentrer. Alors, c'est des prêts qui sont différenciés à l'intérieur, mais globalement, c'est ça. Sachant que, après, nous déduirons de ça, bien entendu, les 5 millions d'euros de fonds de soutien qui nous sont versés. Donc voilà pour les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Je pense qu'on peut, Madame le maire, laisser place peut-être aux échanges, si vous le voulez.
Merci, Charles. Qui veut la parole ? Monsieur Bachet.
Je suppose que je ne serai pas le seul à intervenir sur ce dossier. D'abord, je tiens, Monsieur Daillot, à vous remercier pour la clarté de la présentation de la complexité de ce dossier. Vous l'avez fait et en commission des finances et aujourd'hui, et c'est vrai, c'est des choses qui nous permettent de comprendre certains mécanismes. Mais pour en venir au dossier, proprement dit, moi, je considère que c'est un peu l'histoire de la patate chaude, ce dossier-là. Moi, j'ai vraiment le sentiment, comme je vous l'ai dit en commission des finances, je vais le répéter ici, que ceux qui ont péché vont être vite pardonnés. Et que ceux qui vont payer la note, ce sont, à la fin, les contribuables. Le gouvernement, puisque c'est de lui dont il veut parler, veut s'en tirer lui aussi à bon compte. Par cette transaction, qu'il nous propose à nous, mais aussi à bon nombre de collectivités, il souhaite tout simplement se débarrasser d'un nouveau scandale financier que les fonctionnements et logiques actuels du système bancaire autorisent. Certes, la proposition est alléchante. En quelque sorte, vous stoppez votre procédure et vous aurez sur une longue période un prêt regroupé, en l'occurrence sur le dossier qui nous intéresse, prêt à 3,35%. Faut-il rappeler que l'État, aujourd'hui, emprunte à 1,13%. Donc, quelque part, nous allons payer la note. Et que le coût moyen du crédit aux entreprises est aujourd'hui de 1,61%. Autrement dit, les collectivités, dans leur ensemble, vont se payer, à la longue, via l'impôt sur les ménages, la somme mise, proposée en stoppant donc la procédure. Ainsi, s'il n'y a pas condamnation, le système... Ce système qui a conduit à ces situations va pouvoir perdurer. Alors, faut-il jouer ? Faut-il prendre le risque ? Là est toute la question. Je suis poussé à dire oui. Si vous avez dans la procédure argué comme cela aurait dû être dans la contestation, que vous avez faite au tribunal, fait état d'un manquement d'information, ce que nous ne savons pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, je suis persuadé que nous pourrions gagner au tribunal. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas le contenu de la procédure. Donc, qu'en est-il réellement ? Si vous ne l'avez pas fait, je considérerais cela comme une faute. Même si, en 2006, nous n'étions pas là, ni les uns, ni les autres. Par contre, puisque les choses ont été renégociées, en 2008-2009, nous étions là. Avec le regroupement des achats de prêts, etc., si cela n'a pas été fait, je considérerais que ce serait une deuxième double faute. Donc, même si je conviens que tout ne peut pas se régler dans notre collectivité, dans les collectivités, il y a dans l'actualité des choses qui devraient nous interpeller, qui devraient nous pousser à avoir une réflexion collective, quel que soit notre courant de pensée, sur ces questions de financement et ces questions de crédit. Et là, effectivement, ces questions conduisent à des situations et à des problématiques insupportables dans les collectivités. Dernier argument qui me pousse à voter contre votre proposition, c'est que le précédent gouvernement s'était engagé, je parle du gouvernement qui était présidé par M. Sarkozy, l'actuel qui est aujourd'hui présidé par François Hollande, ne peuvent se dédouaner de leurs responsabilités. D'ailleurs, l'actuel président s'était engagé une réforme du système financier, etc., etc. Aujourd'hui, on en est extrêmement loin. L'exemple de la Grèce, hélas, nous montre que c'est tout ce système-là qu'il faut aujourd'hui changer. Et si je partage vos inquiétudes, telles que vous avez présentées, Monsieur Daillot, moi, je considère que nous, collectivités, nous pourrions, en nous unissant, faire en sorte de faire remonter qu'il y a urgence à réformer ce système bancaire qui est insupportable pour les pays et pour les peuples, tout peuple confondu, que ce soit en Europe ou dans le monde. Donc c'est ce système-là qu'il faut condamner. Et en actant la proposition qui nous est faite, quelque part, on cautionne, ou nous cautionnerions, c'est du moins mon avis, le fonctionnement de ce système qui est mortifère pour les peuples aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans mon premier propos, et vous l'aurez bien compris, qu'en l'état actuel, sauf à ce que vous m'ameniez d'autres arguments, je ne voterai pas, non pas que je ne souhaite pas qu'on ne sorte pas de cette situation, mais je ne voterai pas, parce que quelque part, c'est cautionner le fonctionnement actuel qui est mortifère, je répète, pour les peuples, y compris mortifère pour le peuple montois, même si on représente peu au niveau de l'échelle européenne ou de l'échelle mondiale.
Monsieur Laïtette.
Oui, tout d'abord, pour éclairer l'Assemblée, lors de la commission des finances, j'avais évoqué une décision de justice qui vient d'être rendue pour la première fois par le tribunal de grande instance Nanterre sur le fondement du manquement au devoir de conseil. Et donc la banque a été condamnée. Et j'avais demandé, je pense que M. Daillot, vous avez dû vous rapprocher du cabinet d'avocats qui intervient pour la commune depuis l'introduction de cette action, pour savoir quel était son sentiment sur cette possibilité qui figure d'ailleurs dans l'assignation que nous avons délivrée sur le défaut de conseil. Est-ce que vous avez pu obtenir quelques renseignements, parce qu'il serait quand même, me semble-t-il, assez important pour l'Assemblée de disposer de cet éclairage, puisque depuis le départ, les avocats, au fond, arguent de deux éléments essentiels. Par c'était le TEG, on sait ce qu'il en est, mais ensuite, évidemment, sur le défaut de conseil et de mise en garde. Donc, ce serait quand même important, parce que c'est quand même une décision qui est lourde de conséquences que nous avons à prendre, quelle qu'elle soit. Ça me paraîtrait assez nécessaire de connaître un petit peu leur analyse sur ce dossier, sur les perspectives possibles, s'ils nous disent clairement, parce qu'il rentre aussi dans les compétences d'un avocat, à un moment donné, de dire le dossier n'évolue pas forcément favorablement au regard de tel et tel élément de jurisprudence ou pour telle et telle évolution, et nous vous conseillons de transiger. Est-ce que c'est le sens de leur analyse?
Alors, il y a deux choses. Pardon, merci Madame le maire. Il y a deux choses. Donc là, vous parlez en effet d'une commune. Alors, c'est bien parce que ça montre bien du doigt que jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui s'en est sorti. Hein, c'est bien parce qu'on a eu un doute à un moment donné. On voit bien qu'on ne peut pas sortir indemne de ce type de prêt. Aujourd'hui, il y a en effet une décision qui a été rendue sur une commune de 3500 habitants dans les Côtes d'Armor, qui fait un peu la chronique, et qui a été rendue donc sur, en effet, pour faire simple, la différence qu'il y a et le décalage qu'il pourrait y avoir entre la technicité et la complexité du dossier et la compétence, entre guillemets, requise par les services et l'emprunteur de cette petite commune de 3500 habitants pour pouvoir juger et être en compétence. Il y avait une sorte d'asymétrie et donc un devoir de conseil et des choses qui n'étaient pas symétriques. Donc il y a eu en effet un premier jugement qui a été rendu. D'abord, je vous confirme que cette commune-là, elle n'a pas encore gagné, parce qu'il y aura forcément appel. Et la deuxième chose, c'est que, donc pour répondre à votre question, on s'est rapproché du cabinet Seban, de notre aussi conseil finance active, bon, du fonds de soutien certes, pour essayer de comprendre l'analyse de ça suite à notre commission des finances. Il est clair qu'en fait, cette commune-là, elle y perd plus en gagnant sur ce sujet-là, parce qu'en fait, elle se prive des fonds de soutien et elle ne gagne que sur une petite partie des intérêts et des impayés qu'elle avait. Donc le prêt n'est en rien annulé, le prêt n'entend rien annuler, si vous lisez bien les conclusions, et elle doit encore payer des intérêts à hauteur de... Donc, la première chose, c'est une petite commune de 3500 habitants, le cabinet Seban, ce qu'il nous dit, et la finance active, notre conseil, nous dit, ce sont des motifs qui peuvent éventuellement être plaidés sur des communes qui n'ont pas les moyens, hein, on a une dizaine de personnes dans un service finance qui n'ont pas forcément les moyens d'analyser, qui n'étaient pas conseillés par un cabinet indépendant. Donc toutes les communes de moins de 10 000, moins de 15 000 habitants peuvent éventuellement employer ce motif-là. Au-delà, il est difficile de défendre le fait que nous n'avions pas, enfin qu'il y a un décalage entre la technicité du prêt et la capacité que nous avons de l'analyser.
Donc clairement, le conseil du cabinet Seban, c'est de dire que finalement l'action en justice a peu de chances d'aboutir.
Alors le cabinet Seban, son métier comme le vôtre.
Après, je donnerai la parole à Pascal Horry.
Son métier comme le vôtre, c'est aussi de défendre ces dossiers, puis de pouvoir aussi poursuivre s'il y a une chance de gagner cette procédure. Le cabinet Seban, et peut-être j'aurais besoin de ma collègue pour intervenir, nous dit clairement, dans cette situation, il y a les deux possibilités, et il faut que vous ayez une analyse par le cabinet indépendant, qui est Finance Active, que nous avions mis en place suite à la CRC. Donc Finance Active, lui, clairement, nous dit... Vous devez, enfin, je vous dis pas vous devez, mais à votre place, nous opterions pour rentrer dans ce dispositif.
Au regard de la date à laquelle a été contracté le prêt,
essentiellement. Oui. Alors, c'est nous dit très clairement, aujourd'hui, c'est pas forcément une solution miraculeuse, mais par contre, dans l'état actuel des choses. Et nous précise bien, c'est le cabinet indépendant qui le fait, non pas le cabinet avocat, nous dit, dans l'état actuel des choses et la longueur des dossiers, je laisserai peut-être passer ma collègue en parler, vous êtes vers une procédure qui peut durer de très très longues années. Et en tout cas, ce motif n'est pas valable pour une commune qui a 35 000 habitants avec un pôle finance qui permet d'analyser en théorie les dossiers.
Pascal Horry, sur les procédures.
Oui, alors je vais essayer de résumer. J'ai eu le cabinet Seban cet après-midi au téléphone pour faire effectivement le point de savoir où en était le dossier. Alors, le dossier est devant le tribunal de grande instance de Nanterre. C'est une énorme juridiction. Il y a beaucoup de dossiers de communes contre Dexia. Je voudrais expliquer ce qu'est peut-être la mise en état. Parce que ce n'est pas forcément évident pour les justiciables que nous sommes tous, hein, avant d'être moi-même avocat, de savoir ce qu'est une mise en état. Lorsque un dossier vient devant le tribunal de grande instance, il y a toute une série d'audiences de procédure qui s'appellent les mises en état, où un magistrat va vérifier le bon échange des conclusions et des pièces entre les parties. Donc là, nous avons deux parties, la commune de Mont-de-Marsan et Dexia, qui a été repris donc actuellement. Alors, le dossier dont on parle actuellement, c'est-à-dire celui concernant l'indexation France-Suisse, l'emprunt, a été renvoyé, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à la mise en état du 26 novembre 2015 pour ce qu'elle m'a appelé, la consoeur que j'ai eue, une clôture virtuelle, j'y reviendrai, avec une obligation pour Dexia de déposer des conclusions au 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 16 juillet, les conclusions n'ont pas été déposées. Et la commune de Mont-de-Marsan doit répondre éventuellement à ces écritures au 1er novembre 2015. Et ensuite, le juge fera le point au 26 novembre 2015 et donnera de nouveaux délais éventuellement, pour à chaque partie, pour conclure de part et d'autre. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir combien de temps ça peut durer. Je parle sur le contrôle de mon confrère Renaud Laïtette. Nous savons que les mises en état sont longues, sont nombreuses, avant d'arriver à une clôture du dossier. Et la consoeur que j'ai eue tout à l'heure m'a dit deux choses. Beaucoup de dossiers en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui concernent la même cause. Un seul jugement qui est sorti, on en a parlé à l'instant. Aujourd'hui, une volonté du juge de dire écoutez, on va voir un peu comment ça se passe. On analyse le nombre de communes qui va saisir le fonds de soutien. Quelle va être la réaction du fonds de soutien avant de rendre un quelconque jugement. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'on pourrait avoir un jugement avant 2016 ou 2017, jugement de première instance, sachant qu'il y a la voie de recours qui s'appelle l'appel, qui nous donne un délai de procédure à peu près équivalent, nous serons à 4 ans, ça fera 4 ans de mieux ou 3 ans si la Cour d'appel de Versailles est particulièrement diligente, ce dont je doute par rapport à notre Cour d'appel à nous qui est Pau. Et évidemment, après, dernier recours, le pourvoi en cassation que ne manquera pas de faire à la banque dans le cas où la commune arriverait à gagner. Ce qu'a dit Charles tout à l'heure par rapport à la commune qui vient de gagner son jugement, il est évident qu'il va y avoir un appel de la part de l'établissement financier. Ça me paraît totalement évident. Donc, l'autre jour, on a parlé d'un délai de 10 ans à venir. Est-ce que c'est un délai de 10 ans à compter de l'assignation 2013? Ça ferait 2023, peut-être. Je vous avoue franchement que moi, je serais plutôt pour un délai de 10 ans à partir de maintenant. Voilà. Donc, voilà où en est la procédure réellement aujourd'hui.
Merci. Monsieur Laïtet.
Je n'ai pas fini. Non, mais ces éléments sont intéressants, ce que vous nous avez dit, puisque l'autre soir, vous avez dit que le cabinet Seban poussait au maintien de cette procédure. Je parle sous le contrôle de monsieur Bachir. Et donc, c'est important d'avoir cet élément. Hein. C'est important d'avoir cet élément. Je vais ensuite vous dire quel est le sens, évidemment, de notre vote. Mais je voudrais, au préalable, monsieur Daillot, vous dire que j'attendais ce soir un minimum de vérité de votre part, parce que dans la note de présentation que vous faites, vous persistez encore dans l'erreur. Et je pense que c'est un élément certainement très important qui a été pris en compte par le cabinet Seban dans l'analyse qu'il vous a livré, parce que contrairement à ce que vous dites, le prêt dont on parle n'a pas été signé en 2006 ni renégocié en 2009. Ceci est totalement faux. Vous pourrez avoir les bons mots que vous voulez. Ce n'est pas une position sérieuse. Vous savez très bien que le prêt qui avait été négocié en 2006 a été renégocié en 2008. Il est complètement éteint et que vous avez vous-même renégocier au fond des produits de pente en 2008 une première fois et en 2009. Donc ça n'a rien à voir avec le prêt qui avait été initialement contracté, d'ailleurs pour un montant de 3 millions d'euros. Et il eût été très simple d'assumer cette responsabilité pleine et entière, d'avoir souscrit en 2009 alors que les collectivités de façon importante avait souscrit de tels prêts en 2006 et en 2007. En 2009, les collectivités ne souscrivaient plus de façon très marginale ce type de prêts. D'ailleurs, nous avons retrouvé un courrier qui avait été adressé en 2012 dans lequel vous précisiez ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous aviez indiqué de façon très claire que vous aviez transformé le produit de pente en produit de francs suisses, et que le produit euro-francs suisses dont vous parlez depuis le départ avait totalement disparu de la dette de la commune. Je vous donnerai tout à l'heure ce courrier. Je ne vais pas allonger inutilement les débats pour vous en donner une lecture complète. Donc, je comprends la réflexion des confrères qui est de se dire, si on avait un dossier avec un prêt de 2006, la partie était jouable au niveau de l'information. Là, c'est beaucoup plus ça me paraît beaucoup plus délicat. Sur les éléments de procédure qui ont été indiqués à l'instant, il est clair qu'une procédure en justice revêt toujours, quelle qu'elle soit, un caractère aléatoire, et elle s'inscrit dans la durée. Et on peut raisonnablement penser que dans ce type de procédure, la banque ne manquerait pas, en cas de condamnation en première instance, d'interjeter appel et ensuite de faire un pourvoi en cassation, c'est-à-dire d'utiliser, au fond, toutes les voies de droit possibles, ce qui, effectivement, peut conduire à des durées qui sont peu raisonnables. Nous avons une proposition transactionnelle. Proposition transactionnelle, je tiens, en dépit des quelques critiques que j'ai entendues sur le fonds de soutien, ce fonds de soutien a le mérite d'exister. On peut toujours lui faire un certain nombre de reproches ici ou là, mais il existe, et d'ailleurs, s'il n'existait pas, nous ne serions pas là ce soir pour débattre du sujet. Donc, un protocole d'accord transactionnel, c'est toujours un protocole avec, évidemment, un certain nombre de renoncements potentiels, mais au moins, il y a une proposition qui est faite. Et je crois que vous avez fait une grosse bourde en 2009, et ça, je le maintiendrai toujours, et j'en ai la preuve éclatante, ne serait-ce qu'à travers ce courrier qui avait été adressé, mais il suffit de relire un certain nombre de documents dont j'ai déjà fait état. Mais aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est d'avoir une attitude, me semble-t-il, lucide par rapport à ce dossier, et je crois qu'il faut en sortir. Il faut en sortir parce que on ne peut pas se permettre de jouer encore pendant un certain nombre d'années avec des annuités niveau d'intérêt de l'ordre de 900 000 ou 1 million d'euros, et on ne sait pas quelle peut être l'évolution du taux qui nous serait infligé. Donc je pense, au regard de l'ensemble des éléments, mais uniquement pour sortir de ce pétrin, parce que nous n'avons pas au fond d'autre solution aujourd'hui que d'accepter cette proposition transactionnelle. Et j'aurais une proposition à faire à votre assemblée, Madame le maire, Monsieur le conseiller, c'est que l'état de la dette est, à mon sens, une préoccupation essentielle. C'est vraiment un élément important. Et je crois que notre conseil, même si cette question est abordée par ailleurs en commission des finances ou dans le cadre du débat d'orientation ou du budget, je pense qu'il pourrait y avoir au sein de cette assemblée chaque année, je pense que chacun pourrait adhérer à cette proposition, me semble-t-il, il pourrait y avoir un débat public au sein de notre conseil municipal sur, tout simplement, l'état de la dette pour éviter que de telles erreurs puissent se reproduire. Et je pense que ce serait important que l'Assemblée ait une vision très précise et claire de la situation de la commune de Montmasson. Donc, au final, vous l'avez compris, nous voterons pour ce protocole transactionnel afin de sortir de ce que l'on peut qualifier une totale impasse.
Merci. Quand vous dites nous, c'est qui ? Est-ce que vous êtes dans le même groupe politique, mais visiblement vous n'êtes pas d'accord. Enfin, je ne sais pas, vous m'expliquez, mais...
Nous allons préciser, donc c'est les cinq autres.
Les cinq autres. Donc vous allez voter contre et contre vous, et vous allez voter pour aussi pour votre pour le pouvoir, oui, voilà. Non. Très bien. Madame Piau.
Oui, alors vous parlez de, je cite les délibérations, les documents que vous nous avez donnés, de refinancer le contrat, de requalifier les taux d'intérêt, mais il s'agit de prêts spéculatifs, donc à ce titre de prêts illégaux, puisque le droit français interdit aux collectivités de travailler avec ce type de prêt. Donc il faut refuser le prêt au titre de sa toxicité. Et pas uniquement celui qui est aligné sur le franc suisse. Donc pour cela, il me semble qu'il faut aller en justice. Le tribunal de Metz a condamné ce type de prêt accordé, certes, à un privé. Mais pourquoi un tribunal, finalement, ne le ferait-il pas pour une collectivité locale ? Donc voilà, c'est... je me demande pourquoi payer des banques qui ont trompé leur monde... avec des intérêts, donc et un type de prêt tout à fait donc spéculatif, donc illégal, alors qu'il n'y a pas d'argent pour les services publics, il n'y a pas d'argent pour aider les gens en difficulté, mais on pourrait payer des intérêts énormes. Donc il me semble qu'aller en justice est peut-être une solution plus politique, enfin plus déterminante et déterminée.
Ah, je me disais aussi. Général, il y a un écho toujours. Monsieur Vacher.
Non, ce n'est pas par rapport à ce que... Je pense qu'on ne nous dit pas tout dans cette affaire.
Vous avez ouvert...
On ne nous dit pas tout dans notre affaire, dans cette affaire, parce qu'il y a un jugement qui intéressait l'île Métropole, qui a été prononcé le 28 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a effectivement reconnu la nocivité des prix qui étaient proposés. Je vous lis la conclusion du tribunal. Hein. Le tribunal conclut à l'absence de vérification de l'adéquation susvisée et condamne la banque pour défaut de conseil, malgré le caractère averti de la averti de Lille Métropole. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Et à mon avis, ne pas aller en justice, alors bien sûr qu'il faudrait que ce soit une action beaucoup plus globale que la simple collectivité montoise, c'est effectivement faire cadeau à ce système et le pérenniser.
Excusez-moi, je peux intervenir. Est-ce que Lille a touché les fonds?
Je ne suis pas élu à Lille. Ce document-là, je l'ai sorti cet après-midi après maintes recherches et après la discussion que nous avons eue en commission des finances. Ça m'a interpellé. Je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la présentation de M. Daillot m'a fait bigrement évoluer et m'a fait aller... prendre des contacts et aboutir sur cette recherche-là. Et effectivement, je suppose que si Lille Métropole a engagé cette action, à mon avis, ils ont dû effectivement...
Oui, sauf s'il y a eu appel, c'est ce qu'on disait
tout
à
l'heure. Mais c'est malheureusement le système français qui est comme ça. Et bien, il y a appel, ils seront peut-être condamnés en appel, comme ils ont été condamnés au tribunal de grande instance. Ou peut-être que ce sera le contraire, ou pas. Mais ça, c'est le risque. Mais enfin, voilà, c'est pour moi cautionner le système.
Bon, alors, je vous ai bien tous écouté attentivement. Inutile de vous dire que moi, je partage que c'est du vol et du racket. Tout simplement. Moi, je pense que les collectivités ont été très mal conseillées par des banquiers peu scrupuleux et que, je considère vraiment... que mettre une pénalité de sortie à 9 millions d'euros pour un emprunt de 4 millions d'euros, c'est absolument scandaleux. Et arriver à des taux d'intérêt qui fluctuent, qui sont maintenant à 22%, qui peuvent arriver à 40%, c'est absolument scandaleux. Bon. Devant ce scandale, qu'est-ce que l'on peut avoir comme attitude? Alors, aller en justice. Très bien. On va en justice. J'ai bien compris que la justice n'était pas très rapide dans notre pays. Et surtout, aller en justice de façon... Moi, je suis désolée, mais l'État n'a pas pris ses responsabilités-là. Parce que c'est l'État qui aurait dû aller en justice transactionnelle. Et au niveau européen. Ça a été fait aux États-Unis. Et ils ont gagné. Ça a été fait aussi en Italie. Au soutien de certaines villes, notamment la ville de Milan. Et j'estime que cela n'a pas été fait dans notre pays et que l'on se couche un peu, excusez-moi. L'État et les collectivités. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? L'État a eu le mérite d'essayer de sortir, d'aider un peu les collectivités avec ce fonds de soutien. Moi, j'essaye d'être le plus neutre possible dans cette affaire, d'analyser ça de la façon la plus neutre possible. L'État essaie d'aider les collectivités. Pour moi, elle les aurait plus aidées si vraiment elle avait poussé la justice transactionnelle. Vraiment, si ça avait été fait par la force de l'État... Je pense qu'on aurait été beaucoup plus fort que la commune de Mont-de-Marsan, de Trifouilly-les-Oies, les plus grandes collectivités qui sont bien plus empêtrées que nous, il faut bien le dire. Bon, ce fonds transactionnel est mis en œuvre. Et ce fonds transactionnel, cette proposition transactionnelle, ce fonds de soutien, c'est vrai qu'on nous met un peu le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'on nous dit tranquillement... c'est à prendre ou à laisser d'abord, puis si vous ne le prenez pas, tant pis pour vous, vous vous débrouillez. Et en plus, il n'y a pas que l'euro franc suisse, il y a tous les autres, on vous oblige à intégrer d'autres prêts qui ne posent pas de problème particulier, qui pourraient en poser un jour, mais qui aujourd'hui n'en posent pas. Et et ensuite, on vous aide à hauteur de 50%, et on fixe les taux, et il y a une échéance qui est après lisible, qui ne bouge pas, hein, comme les échéances à l'heure actuelle depuis le départ, qui sont en évolution permanente. Donc si vous n'y allez pas, dans le contexte actuel, géopolitique, international, vous prenez un risque, à mon avis, qui est quand même assez inconsidéré.
Bien entendu que les collectivités, elles se dirigent de plus en plus vers ce fonds de soutien, tout simplement parce qu'elles aussi, elles savent très très bien quelles sont leurs échéances à venir, quelle est la baisse des dotations qui les attend dans les années à venir et quels sont les risques que font peser ces montants d'intérêt pas stables et à la hausse permanente sur leurs équilibres budgétaires. Donc on peut être révolutionnaire d'un côté et dans la pensée et essayer de savoir qu'est-ce qu'on est quand on est en présence d'un problème de gestion, quel est le mieux quand même pour sa collectivité et pour la poursuite de l'action de sa collectivité pour ne pas la mettre en péril. Bon, c'est un petit peu la question qui nous est posée. Est-ce qu'on joue au poker sans carte, en définitive, parce que c'est un peu sans carte quand même, cette histoire, ou est-ce que on joue la sagesse et puis on se met à l'abri de l'avenir avec une aide, certes, qui n'est pas suffisante à mon avis, mais avec une aide, dans des situations qui auraient pu être, à mon sens, jouées autrement, mais jouées autrement avec l'État. Ce n'est pas nous, collectivités isolées, qui allions arriver à régler ce problème. Et l'État n'a pas voulu. Je vous signale quand même que la loi rétroactive qui a été votée, j'ai essayé de me renseigner pour savoir qui avait voté cette loi, qui avait voté pour et qui avait voté contre. C'est la loi du combien ? Je ne sais plus quelle date. Pardon ? 24 juillet 2014. On était en pleine Madeleine, là où on en sortait. 24 juillet 2014. Eh bien, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, personne n'a pu me répondre. Ça a été voté en pleine nuit par les 10 députés qui devaient être en manque de sommeil et à main levée, donc personne n'a relevé qui était le nom de ceux qui avaient voté. Ça a été voté, point. Il y avait sur les 10, il devait y avoir la majorité. Excusez-moi, mais sur un problème comme ça, je trouve que c'est un peu beaucoup léger. Voilà. Mais bon. Et cette loi, en plus, elle est rétroactive. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient gagné avec cet argument-là, j'ai jamais vu de loi rétroactive, moi, ils ont perdu, en fait, et ils ont fait un tour en justice pour rien. Donc, moi, je vous avoue que, tout ça est très tiède. Il y a une aide, certes, mais, voilà. Et le contexte international, le contexte à venir des collectivités ne me pousse pas vraiment à la jouer comme j'aimerais la jouer. Je vous le dis très tranquillement, hein, parce que je suis scandalisée, moi, par ces formes de prêts financiers. C'est pas que je manque de courage, mais je veux asseoir nos budgets et faire en sorte que l'on ait de la visibilité pour les actions à venir dans notre collectivité. Signer cette proposition transactionnelle va faire augmenter notre encours de dette de 3 millions, je crois. Bon, c'est pas énorme. Ça va nous alourdir un petit peu l'encours de dette, mais de notre côté, ça va nous permettre d'avoir des marges de manœuvre en fonctionnement, ou du moins de pouvoir petit peu tamponner les pertes de dotation d'État qui arrivent dans les qui vont continuer d'évoluer jusqu'en 2017 et on ne sait pas pour la suite. Donc voilà, j'ai pas très envie d'être sage, mais je crois que j'ai trop de responsabilités vis-à-vis de nos concitoyens pour ne pas l'être. Alors après, bon, dernière chose, monsieur Laïtet, on ne va pas tourner en rond pendant 107 ans, quoi. 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, moi, j'assume tout ce que j'ai à assumer. J'assume avoir signé des prêts en 2009, j'assume avoir renégocié, ou du moins, compte été renégocié dans la collectivité, et à partir du moment où c'est un des membres de mon équipe, je l'assume pleinement, avoir renégocié notre dette totale, où il y avait 13 prêts qui se sont retrouvés en 6 prêts. Voilà, très simplement. C'est ça la renégociation qu'il y a eu en 2008. Et je peux vous assurer que le franc suisse de 2006, il ne s'est pas du tout envolé. il a été... non, mais il ne s'est pas envolé. Et que la transaction, elle a porté sur tous les prêts en même temps, cette renégociation de la dette, ça a porté sur tous les prêts en même temps, et que si on nous a fourgué du franc suisse encore, c'est parce qu'il y en avait déjà en 2006, parce qu'il n'y en aurait pas eu en 2006, on aurait...
Faux, c'est faux.
Non, et s'il vous plaît, je vous ai laissé parler, donc vous me laissez terminer. Donc, il y a eu encore, effectivement, du franc suisse. Mais on ne pouvait pas, il n'y a pas une commune à partir de 2008 qui ait pu sortir, d'ailleurs, il n'y a pas une commune qui soit sortie de cet euro franc suisse. Aucune. On vous réaménage la dette, mais on vous en remet une couche. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce qui nous avait poussé à réaménager cette dette, c'est que justement cet euro franc suisse en 2008 commençait à augmenter dangereusement, puisqu'il passait de 3% ou de 3 et des poussières à 12%. Et qu'on l'a réaménagé avec le reste pour stabiliser le taux. On a eu un taux stable pendant 3 ans, ou 4 ans, 3 ans, je crois. Mais ensuite, ça a recommencé à augmenter parce que ce sont des prêts dont on ne peut pas se sortir. C'est une terrible maladie quand on a ça. Donc, voilà, moi j'assume ce que j'ai fait. Tout le monde peut assumer ce qu'il a fait. Je n'ai jamais critiqué mes prédécesseurs, que ce soit l'adjoint aux finances, les directeurs financiers, le maire, personne, parce qu'ils étaient partis dans cette affaire-là. On assume et on essaie de s'en sortir du mieux que l'on peut. Voilà. Mais jamais aucune commune, n'a vu un prêt franc suisse, euro franc suisse se volatiliser. Aucune. C'est un piège, et c'est un piège mortel, cette affaire, qui me scandalise, à titre personnel. Voilà, je le dis très tranquillement. Donc voilà, les responsabilités, on va tous les assumer, il n'y a aucun problème. Ce que je veux, c'est que collectivement, on s'en sorte bien. Voilà. Et que notre collectivité puisse continuer tout simplement à pouvoir avancer, à pouvoir avoir des projets, à ne pas être en faillite comme vont l'être certains peut-être, et à pouvoir très simplement continuer à remplir ses missions. Donc, moi, bien sûr, je vous propose de voter pour m'autoriser à signer ce protocole transactionnel. Et je vais faire voter, oui. Qui est donc d'avis de voter contre ? Alors, Monsieur Bachet, 1. Hein, et Madame Piau, qui est donc d'avis de s'abstenir.
Non, je voulais juste rajouter qu'en fait, on va sauver le système et aider les banques.
Je suis... Non, mais... C'était à l'État français à s'attaquer aux banques. C'est pas à la commune de Mont-de-Marsan. C'est eux qui devaient faire la justice transactionnelle. C'est pas nous. Moi, je suis désolée. Hein. On n'a pas... On est aidés à hauteur, je le dis. C'est très bien qu'il y ait ce fonds de soutien. Mais effectivement, ça ne résout pas le problème. Je suis d'accord avec vous, parce que c'est les contribuables qui vont payer quand même. Je suis d'accord avec vous. Et que ce n'est pas eux qui sont fautifs au départ. Voilà. Donc, deux avis contre. Qui est d'avis de s'abstenir et de voter pour? Donc, Monsieur Bachet, mais pas pour vous. Donc, non, 2, 4, 5. 5 et 31, 30... Ah non, on n'est que 30. Il y a un absent. 30. Très bien. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est adopté. Alors peut-être que je ne signerai pas, hein, si les conditions ne sont pas bonnes, au moment où il faudra que je le signe. Mais j'ai la possibilité de le signer, voilà. Vous n'en faites pas, ce sera toujours pour les intérêts de la ville. Hein. Et ensuite, la délibération 2, bien entendu, c'est les décisions modificatives qui découlent de tout ça.
C'est la traduction
Charles
comptable.
Dailloux.
Voilà, c'est la traduction comptable de ce qu'on vient d'opérer. Donc, vous en avez pris connaissance. Il s'agit de la décision modificative intégrant les opérations que nous actons par le biais de ce protocole, tout simplement.
Bien, des avis contre. Donc, Monsieur Bachet et Madame Piau, des abstentions et pour.
Oui, c'est purement technique.
Tous les autres. Merci beaucoup. Eh bien voilà, je vous remercie. Notre séance est terminée. Je vous rappelle, au cas où vous ne l'auriez pas intégré, que les fêtes de la Madeleine commencent mardi avec le concours landais, enfin, dont déjà samedi soir avec la course cycliste. le golf dimanche, mardi le concours landais, et puis ensuite que nous enchaînons jusqu'au 26. Bonne fête.